Allez, dissolution, qui c'est celui-là? Emmanuel Macron, victoire de l'extrême droite française aux européennes, dissolution surprise, Front populaire, Front républicain ou Front de je ne sais pas quoi encore. Tout le monde y va de son anticipation, comme le disait Emmanuel, tout le monde y va de son commentaire, de sa petite prévision, de sa petite bataille, de son poste. On voit que pour garder son poste, on est prêt à tous les compromis, mais ça, c'est pas une surprise. Nous, on va se contenter d'analyser l'impact de cette crise politique en France et en Europe aussi, uniquement pour l'instant d'un point de vue économique. Et puis tout à l'heure, on va parler de placement. Alors, on connaît, même en écrivant ça, je me suis dit, on connaît les scénarios possibles, je sais même pas si on les connaît, mais... Allez, disons qu'on en connaît quelques-uns. La victoire du RN, la victoire du front que je n'arrive pas à appeler Front populaire parce que j'ai trop de respect pour Léon Blum, le front de la gauche ou l'absence de majorité absolue et des majorités très relatives. Alors, d'abord, on va essayer de prendre un tout petit peu de recul. Est-ce que ce que je donne comme scénario, Emmanuel, c'est les scénarios probables ou déjà je suis à l'ouest?
Non, ce qui est très compliqué, c'est que le champ des possibilités, le champ des combinaisons possibles sur le plan politique à l'issue de ces législatives, il est extrêmement vaste. Et ce qui est compliqué...
Il est si vaste que ça ?
Oui, il est vaste.
Pourquoi si vaste ?
En gros, soit vous avez une coalition plutôt extrême droite et des gens de droite qui auront bien voulu la rejoindre, soit vous avez une coalition qui sera une coalition plutôt donc nouveau Front populaire, soit vous avez une coalition qui sera faite avec... les macronistes, des gens venant de la gauche raisonnable.
On a trois scénarios,
mais vous voyez bien que même si... Alors, on peut simplifier avec ces trois scénarios, sauf que ces trois scénarios impliquent des choses extrêmement différentes en matière de finances publiques.
Absolument, non, je suis d'accord avec ça.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans un premier temps, déjà, cette période d'incertitude totale a un impact économique
énorme, et on le voit sur les marchés. J'ai envie de commencer tout de suite avec vous, Anna Boita. Oui. Parlons directement, on va essayer d'être précis, d'expliquer aux gens qui nous écoutent. C'est pas des grandes théories, on a des programmes maintenant. Le programme du Rassemblement National, d'un point de vue économique et fiscalité, c'est quoi?
Oui, après, je suis d'accord qu'il faut prendre des hypothèses aussi sur le poids de cette coalition du Rassemblement National. Puisque le programme en lui-même, effectivement, on a à peu près maintenant, une fois qu'ils ont annoncé qu'ils ne veulent plus privatiser les autoroutes et que la réforme des retraites n'est plus du tout d'actualité, en tout cas mise en pause, ça nous fait gagner...
C'est déjà une bonne nouvelle.
C'est déjà une bonne nouvelle parce que ça nous fait quand même gagner à peu près presque 70 milliards de moins de dépenses publiques. D'accord. Dans un environnement où, de toute façon, la France, elle est au centre de l'attention par rapport à l'état de ses finances publiques.
Évidemment.
Donc là, on est à peu près à 75 milliards de dépenses additionnelles, que ça soit un petit peu dans tout ce qui est santé, que ça soit un petit peu dans des mesures de pouvoir d'achat, un petit peu de mesures aussi pour les entreprises, dans la réduction de la taxe sur la production. Donc il y a quand même un mix de mesures. Fiscalité, il y a un petit peu de mesures vraiment pour les jeunes, auto-entrepreneurs, pour qu'ils payent, pour qu'ils soient exemptés en fait de...
Remise en cause de la flat tax ou pas?
Non, pas de ce que je
connais. D'accord, donc pas d'alourdissement. Sur l'impôt sur les successions, il y a des choses qui sont prévues ou pas encore? Emmanuel, il y a sur la taxation, vous avez sur la fiscalité, qu'est-ce qu'on dit du côté RN?
Alors, il y aura quand même sans doute des mesures pour taxer les plus riches.
Donc ISF, un retour de l'ISF.
Vous n'y couperez pas non plus avec le nouveau front populaire.
Ouais, non, là, pour l'instant, restons sur le Rassemblement National.
Et il y a beaucoup de... Alors, vous êtes jeune, c'est vraiment un paradis fiscal. C'est-à-dire qu'on vous ne payez pas d'impôt sur le revenu. C'est vraiment vous ne payez plus d'impôt. On vous fait des taux bonifiés pour vous loger, etc. C'est
d'accord.
Alors, de baisse d'impôt.
Maintenant, Anna nous a dressé le tableau un peu sur le programme du RN, le programme du Front de gauche.
Ah c'est très simple. C'est le même depuis 40 ans. Hein, celui que vous entendez régulièrement à chaque élection, c'est-à-dire on augmente le SMIC. Donc là, ce sera 1600 euros net. On indexe les salaires et les pensions de retraite sur l'inflation. On ramène la retraite.
Ouais, c'est très important.
Hein,
c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle, nous, l'inflation de second tour.
Absolument.
C'est parce qu'on n'avait pas cette indexation qu'on n'a pas eu cette spirale inflationniste.
On revient sur, évidemment, la réforme des retraites pour faire baisser l'âge officiel de départ à la retraite. Donc, c'est quelque chose d'effectivement.
On supprime la flat tax.
Extrêmement classique. Oui, on remet l'impôt sur
la fortune. D'accord, ça, c'est quand même important. Et on alourdit de façon très significative l'imposition et la taxation sur les successions.
Oui, oui, mais en même temps...
C'est ce qui est écrit. Hein.
Oui, 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 mais en même temps, vous voyez bien que d'un côté comme de l'autre, les ordres de grandeur entre ce que vous dépensez en plus et ce que vous êtes supposé encaisser, on est dans l'ordre de 1 à 10. C'est-à-dire qu'en gros, bon, 100 milliards, effectivement, ce ne sera pas 100 milliards le Rassemblement National, puisqu'ils sont déjà revenus sur certaines choses. Ce sera à peu près du même ordre de grandeur du côté du Nouveau Front Populaire. Et les recettes nouvelles qui sont mises en face, c'est de l'ordre de la dizaine de milliards. Rappelez-vous, vous remettez l'impôt sur la fortune, c'est quoi ? C'est 3-4 milliards.
Évidemment, et encore.
Et voilà. Et puis après, le RN qui veut aller chercher, par exemple, alors c'est ce grand truc de la lutte contre la fraude fiscale.
Ouais,
on va juste rappeler que l'administration française fait l'admiration des administrations du monde entier.
Évidemment.
Et envoie des missions à Bercy pour voir comment on fait, nous, pour recouvrer l'impôt.
C'est notre meilleure exportation de services.
Voilà. Et donc, vous voyez bien qu'il y a quand même un énorme sujet dépenses publiques. Enfin, finances publiques.
Quelle est la marge de manœuvre d'un Premier ministre, qui soit RN ou issu du Front de Gauche, puisque la troisième hypothèse, on va dire que bon, ça sera quelque chose qui risque de ressembler à ce qu'on a connu jusqu'à présent. Quelle est sa marge de manœuvre par rapport à l'Europe? Quelle est sa marge de manœuvre par rapport à son président? Quelle est la marge de manœuvre? Là, on parle uniquement économique, fiscalité.
Oui.
C'est-à-dire, quand on a ce type de dépenses, qui est-ce qui dit ben non, c'est juste pas possible d'avoir un déficit qui monte à 8%.
Bah déjà la semaine prochaine, bon, malheureusement le timing n'est pas idéal, mais le 19 juin on a un rapport dans la Commission européenne qui va justement mettre en exergue les pays qui ne respectent pas les règles budgétaires puisqu'on les a remis en place. La France va en faire partie, l'Italie, la Belgique, et donc du coup, quelle est la prochaine étape? C'est la procédure de déficit excessif. Si en fait la France n'arrive pas à ramener de la crédibilité sur la trajectoire des finances publiques.
N'est pas terrible, je veux dire, ok, elle est pas dramatique.
Ben en fait, il faut comparer, on aime bien en ce moment comparer la France à l'Italie, puisque l'extrême droite...
Sûr,
mais si on compare les finances publiques de l'Italie, certes, ils sont pas dans un meilleur état non plus, mais là, l'Italie, elle a encore droit à 3% du PIB de fonds européens qui vont absorber,
bien
et
sûr.
Avec un multiplicateur de 0,5, ça peut créer, sur deux ans, encore 1,5 de
on
croissance.
On parle de 200 milliards, hein.
Oui, mais en point de PIB, je veux dire.
Oui, bien sûr.
Donc, ça peut aider un dérapage budgétaire, puisque en face, on a plus de croissance. C'est pas du tout le cas de la France. Et je pense que là, en fait, quand on regarde les différentes coalitions, on se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on a en face? Probablement pour le RN, à peu près 50 milliards, et encore, c'est discutable. Donc, ça veut dire que dans un cas où ils sont minoritaires, probablement quelqu'un d'autre va essayer de garder un déficit public autour de 5%, ce qui est quand même plus raisonnable, que s'ils ont la majorité où le déficit public aurait probablement une nature d'être au-dessus de 6,5.
Ce que dit Anna est très important.
Oui,
parce que,
c'est ça, parce que quelle est la marge de manœuvre? Est-ce qu'on peut faire n'importe quoi? C'est ça ma question.
Alors, on n'a jamais eu aussi peu de marge de manœuvre. C'est-à-dire que si vous regardez tous les leviers sur lesquels vous pouvez espérer avoir des marges de manœuvre, vous n'en avez aucun et comme jamais. L'état actuel des finances publiques, jamais eu autant de dettes et des déficits structurels qui restent...
Qui siffle la fin de partie?
Attendez. Et donc là-dessus, rien. Est-ce qu'on peut espérer gagner de l'argent, récupérer de l'argent de l'extérieur?
Non, c'est sûr que non.
Quand vous regardez la position extérieure de la France, ça n'est pas le cas.
L'incertitude sur la croissance.
Oui, mais quand vous regardez la machine à fabriquer de la richesse, c'est quoi le moteur de la création de richesse le plus puissant? C'est les gains de productivité. Là-dessus, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à espérer non plus. Donc, il n'y a strictement aucune marge de manœuvre. Et on voit bien que la force de rappel, elle viendra pas de quoi? Elle viendra pas de l'euro, puisque à l'époque, ok, quand on avait le franc, c'était le cas. Mais là, on voit bien qu'on bénéficie quand même de la protection globale. La seule force de rappel qui peut exister, c'est un, les taux d'intérêt obligataires, c'est-à-dire le taux de notre dette, et deux, les décisions des investisseurs étrangers.
Alors,
et
ça, on va en parler. Attendez, je voudrais qu'on... Allez-y. Je voudrais juste, Emmanuel, que vous nous disiez si, d'un point de vue européen, il y a une sanction réelle qui nous empêche de faire. Parce que ce que vous dites, là,
il y a quelque chose que j'ai oublié de dire. C'est qu'effectivement, par rapport à l'Italie, si vous voulez, parce que la petite musique qui est en train de s'installer en France, c'est de dire, mais regardez...
C'est la mélanisation du RR.
Regardez, c'est pas si grave, les entreprises sont plutôt contentes, etc., etc. Mais n'oubliez pas que les fonds européens, justement, et ce qui explique pourquoi Mme Meloni a été aussi conciliante, c'est que, vu les milliards qu'il y avait en jeu venant de Bruxelles...
Évidemment, elle avait pas le
voilà,
choix.
Et en plus, ces milliards ont eu un impact positif sur la croissance.
Gigantesque.
Donc, le bilan économique de Mme Meloni, il est très largement embelli par ces fonds structurels,
évidemment,
dont nous ne bénéficierions en aucun cas. Donc, attention à cette idée qui
s'installe. Ma question, Emmanuel, c'est qui peut dire, interdire à la France
personne.
De faire n'importe
mais
quoi.
Personne, puisque
imaginons
fait...
non, qu'on accepte la sanction des marchés, et on va parler de la sanction des marchés, on verra. Imaginons qu'on accepte la sanction des marchés, et que pour d'autres raisons, les taux d'intérêt ne montent pas autant qu'on le craint ou qu'on peut l'espérer si on veut qu'il y ait une sanction des marchés. Qui dit, mais vous ne pouvez pas faire du 8% ou faire du 10% de déficit ?
Bah, attendez, ça fait 30 ans que la France trahit, année après année, toutes ses promesses de trajectoire budgétaire auprès de l'Europe. Ça n'a jamais eu, pour le moment, aucun impact considérable et personne n'a été capable. Rappelez-vous Jacques Chirac qui disait, mais alors, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont m'envoyer les chars ? Non.
Donc, la BCE,
du côté des autorités officielles européennes, il y aura très peu de force de rappel.
Léa. Oui, c'est Léa ça. C'est les rachats prévus par la BCE peuvent vraiment peser, à mon avis,
alors,
sur
la BCE. Absolument.
Oui, mais ils n'ont pas intérêt à créer le chaos, la BCE. Je veux dire, ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une fragmentation. Ouais. Je veux dire, rappelons qu'ils ont de l'argent aujourd'hui pour lutter contre la fragmentation. La fragmentation, c'est-à-dire que c'est pas sur lutter sur l'ensemble des dettes, mais lutter sur certains pays qui dériveraient. Ils n'ont pas intérêt à faire
ça. L'Italie rassure.
Rappelez-vous le quoi qu'il en coûte pour sauver l'euro. Hein.
On peut imaginer que ça joue un rôle de dissuasif, déjà. Ouais. À minima, on peut le voir comme ça, je pense.
Qu'est-ce que ça vous inspire, André ?
Écoutez, moi, je suis peut-être un poil plus optimiste. Je voulais apporter un peu d'optimisme. Alors, c'est peut-être
on en a
issu
merci.
Dû à ma nationalité. Oui. Vous savez, je suis polonais. La Pologne sort de 8 ans de populisme. Alors, c'est un populisme de droite, donc un peu comme ce qui risque d'arriver ici. Et c'est vrai que le constat qu'on peut en faire, c'est que le populisme de droite, il est plutôt favorable à l'économie, pragmatique. Et je donnerai juste un chiffre. La Pologne, en 2015, quand les populistes ont pris le pouvoir, en PPA, en parité de pouvoir d'achat, représentait à peu près 70% de la moyenne européenne. Aujourd'hui, on est à 80%. Vous voyez, donc ça, il y a eu quand même un gain.
André, quel était l'état des finances publiques polonaises à l'époque ?
Très bon, très bon. Il y avait une dette publique de 50%. Et voilà.
Et aujourd'hui, c'est pas dramatique. Hein.
Mais ils ont laissé les caisses pleines, puisque la dette publique est toujours à 50%. Voilà. Donc en fait, les populistes ont été raisonnables d'un point de vue économique.
De
par contre, ils ont clivé la société et ils ont détruit les institutions. Donc ça, c'est le côté triste de ça. Et je dirais, pour le populisme de gauche, on a quand même vécu en France, entre guillemets, alors ils seront offensés de dire ça, mais enfin, aujourd'hui, le programme de Mitterrand pourrait être considéré comme un programme populiste.
Et celui de 80.
81, donc on retourne 45 ans en arrière.
Avec 20% de communistes, on le rappelle, parce que les jeunes ne le savent pas.
Il a vite rétro-pédalé quand même. Et puis après, on a eu des réformes très libérales, les privatisations, enfin, en tout cas, quelque chose qui a alimenté une croissance importante dans les années 80, avec un malheureux effet à long terme, c'est-à-dire il a quand même détruit la valeur travail, c'est-à-dire il a introduit ce qui est la gangrène de la société française, c'est-à-dire la désaffection du travail, le désamour du travail. Donc ça, c'est une gangrène lente, mais en tout cas, il a vite rétropédalé, et donc je dirais, il y a dans ces programmes beaucoup
très
de aujourd'hui
votre éclairage sur la Pologne,
beaucoup de démagogie, et on sera malheureusement noyé sous la démagogie, mais in fine, quand les gens prendront le pouvoir, et on ne sait pas qui prendra le pouvoir, ils devront se mettre à raisonner de façon rationnelle.
Oui, mais ce que dit André très bien, c'est que ça dépend aussi de la situation de départ de votre pays. Mm-hmm. Vous aviez des finances publiques très saines, vous aviez besoin d'une politique qui finalement muscle l'offre économique.
Ils avaient besoin de l'Europe, donc ils ont fait des efforts.
Et vous avez beaucoup profité, mais comme beaucoup de pays avant vous, des fonds européens. Donc, je comprends ça. Là, le problème, c'est que la situation de départ de l'économie française, c'est que c'est une économie qui fondamentalement souffre d'un déficit d'offres et non pas de demandes. C'est-à-dire, on a des entreprises qui ne sont pas assez compétitives, on a un marché du travail sur lequel il n'y a pas assez de qualifications et de manœuvres. Donc, le problème de la France, ça n'est surtout pas d'avoir une politique qui encourage la demande comme la politique du RN ou comme la politique du Nouveau Front Populaire, ce serait d'avoir une politique qui muscle notre appareil de production. Et le problème, c'est que ces deux projets politiques-là vont à l'encontre, quelles que soient les idées politiques derrière, de ce qui est nécessaire pour l'économie française.
Léa.
Oui, non, mais je suis en ligne, en fait, avec Emmanuel, parce que le problème, c'est que les débats ne sont pas au bon endroit. Et le sujet de la productivité, je reprends la proposition sur l'augmentation des salaires. On oublie, en fait, que le seul moteur d'augmentation des salaires réels, finalement, c'est la productivité du travail. Et donc, ce discours démagogique, et j'aime bien cette image de gangrène sur le travail, on n'en parle pas. On n'a pas de vrai débat, en fait, dans ce.
Je profite de votre présence et de la blague qui n'en était pas une au débat. démarrage, dans les deux programmes, l'écologie, il y a quand même les écologistes dans le front.
Oui, c'est vrai. Non, mais c'est plutôt les priorités budgétaires vont pas aller, en tout cas, sur ce qui
quand
a
vous
été.
Vous dites c'est cuit, vous, de quel que soit le scénario sur notre sujet.
Non, la problématique, c'est que certaines de ces décisions sont au niveau européen. Je pense par exemple à ce qui se passe sur le moteur thermique. On a entendu très vite le sujet des moteurs thermiques et écarté le fait que cette décision de les arrêter en 2035, elle serait pas tenable. C'est français, mais c'est quand même un sujet européen. Mais clairement, ça va avoir des impacts et il va falloir prendre le temps de les analyser, à mon avis, spécifiquement. Non, mais
très sérieusement, vous vous dites sur mes sujets... Pendant quels que soient les deux scénarios, puisque le troisième, on va le mettre à part.
Oui, je vais vous dire pourquoi, en fait. Je vais faire la différence avec les États-Unis, par exemple. Les États-Unis, on a eu le même débat avec l'arrivée potentielle de Trump au pouvoir, qui est complètement hostile, on va dire, à tout ce qui est vert. Mais tout a été voté, les budgets sont au niveau des entreprises, et c'est déjà parti. En fait, il ne va rien pouvoir y changer. D'accord. Et en plus, la majorité qui sera constituée ne votera pas contre, ou ne remettra pas en question ce qui a été voté
alors
précédemment.
Alors que nous, on n'a rien voté.
Non, c'est pas vrai. Alors, c'est pas... d'accord avec ça.
Alors attendez, juste...
Non, au niveau de l'Europe, ce que je veux dire...
C'est là où j'en viens. C'est qu'en fait, l'Europe, la situation est différente. Oui, les choses ne sont pas votées.
Elle n'est pas si catastrophique que ça, au sens où on voit bien que le mandat, le premier mandat de Mme von der Leyen, ça a été le mandat où on a tout mis en place, on a tout lancé. Et le mandat qui vient, ça allait être plutôt un mandat, pas de lancement de nouveaux projets, mais plutôt de mise en place de ce qui a déjà été décidé. Oui. Et ça, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont se faire. L'impulsion, elle est déjà donnée.
Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Emmanuel, c'est qu'il faut rappeler aux gens qui nous écoutent que ce que nous vivons en France, on ne le vit pas au niveau de l'Europe, puisqu'au niveau de l'Europe, les élections législatives, certes, ont marqué une poussée de l'extrême droite, mais on a toujours une droite, un centre et un droit républicain. Voilà. Anna.
Moi, je voulais rappeler, dans le programme du RN, il y a quand même 5 milliards en moins de baisse des subventions vertes. Il y a quand même cette baisse de la TVA pour justement consommer plus d'énergie fossile. D'accord ? Donc ça, et c'est la même chose dans le programme de Trump. Il y a 55 milliards de plus de...
Très significatif. J'assistais à la présentation du programme du nouveau Front Populaire. On parle des retraites, on parle du SMIC, etc.
On parle pas d'une
proposition relative à l'écologie et à l'environnement.
Absolument. Emmanuel, je voudrais finir sur le sujet qui nous a opposé avant que vous parliez, en première partie, avant qu'on démarre. Moi, je pense, je me trompe sûrement, comme d'habitude, je pense que les Français ont aussi voulu se révolter ou en tout cas sanctionner la gestion des dépenses publiques. Alors, je vous donne mon argument et je vous laisse le démolir après. C'est que je pense que compte tenu du taux d'épargne qu'on a aujourd'hui en France qui est à peu près à 18%, alors qu'on n'est pas dans une situation de crise, et donc c'est très rare d'avoir ces 18%, c'est l'indication de la crainte de l'avenir de nos dépenses sociales.
Oui, mais c'est une crainte qui est liée à quoi ? C'est une crainte
qui est liée à la dette et au déficit.
Non, parce que mais de façon indirecte et totalement reliée à la vie quotidienne. Ce qui inquiète les Français aujourd'hui, et c'est pour ça que on voit bien que le bon bilan entre guillemets d'Emmanuel Macron sur l'emploi, etc., ne percole pas dans l'opinion, c'est que ce que voient les gens.
Je suis pas d'accord.
Et ça, c'est l'échec principal.
Un bon bilan déjà. Non, je suis choqué par le fait.
Je vais vous dire un bon bilan. Quand vous regardez, quand vous êtes électeur et que vous voyez que vos impôts ont baissé, que vous voyez que le chômage a baissé, que c'est plus facile de trouver du travail, je dis un bon bilan comparé aux autres précédents. Bilan très mauvais sur les finances publiques, mais là où on n'est pas d'accord.
Et bilan sur le chômage très mauvais par rapport aux pays autour de nous.
Oui, mais attendez,
ils sont tous en plein emploi.
Attendez, on est en France et regardez les indicateurs du marché du travail, ils n'ont jamais été aussi bons. Sur la dette et les déficits en tant que tels. C'est une abstraction pour les Français. Je vous rappelle cette enquête de la Fondation Jean-Baptiste Say. Il y en a deux tiers. Les deux tiers des Français n'ont aucune idée, mais aucune idée des ordres de grandeur sur la dette.
Ils n'ont aucune idée des ordres de grandeur, mais quand ils voient une dégradation,
ce qui les révolte, c'est d'assister impuissant à l'effondrement de pans entiers du service public, à l'école, à l'hôpital, en matière de sécurité,
et la gabegie de dépenses publiques.
Et c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Mais depuis les Gilets jaunes, on le sait, c'est que d'un côté, ils ont l'impression de payer de plus en plus d'impôts et que de l'autre côté, il n'y a plus de services publics. Et c'est ça, aujourd'hui. Le logement plus la dégradation des services publics, voilà pourquoi, politiquement, moi, je pense qu'on en est là aujourd'hui.
Et je pense qu'il faut rajouter aussi le fait que on a quand même des facteurs externes qui ont poussé aussi la dégradation des finances publiques. Non, il y a les facteurs structurels parce qu'on n'a pas assez de croissance, qu'on a dépensé.
J'accepte pas cet argument.
Bah, les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas et on maîtrisera davantage moins si on a certains scénarios qui se matérialisent.
Il y a d'autres pays, l'Allemagne a les mêmes taux d'intérêt un peu plus bas, ils ont subi la hausse des taux d'intérêt, ils ont toujours...
Non, mais ils n'ont pas le même point de départ aussi. Et d'ailleurs, l'Allemagne, c'est un risque aussi sur la coalition plus tard cette année, puisqu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le budget et que Scholz, il a eu la même situation comme le président Macron et qu'il n'a pas activé les mêmes leviers. Mais on aura potentiellement plus d'incertitudes politiques au sein de l'Europe à l'automne, non seulement à cause du Royaume-Uni, de la France, mais peut-être potentiellement. Et donc là, il faut se poser la question sur qu'est-ce qui se passera de cette épargne des Français, 18%, où est-ce que ça va aller dans un certain gouvernement ou un autre?